Donc, merci de nous accueillir. On vient toujours avec joie vous voir. C'est un moment qui, après, reste dans nos cœurs, un moment de communion, convivial, de contact avec vous, et puis aussi de simplicité. Bon, on va... C'est pas la période des vacances, mais on va faire un petit voyage, si vous voulez bien. Un voyage avec l'apôtre Paul, on en parlait tout à l'heure. Il a fait du bateau. Alors, on va voyager un petit peu avec lui. On va voir son départ, son arrivée aussi, dans acte 27. On va prendre quelques versets. J'essaie de ne pas parler trop vite pour nos amis qui viennent d'Iran. Hein, c'est pour qu'ils puissent comprendre. Alors, c'est l'histoire de Paul. On ne va pas prendre tout le chapitre, mais enfin, ce qui est le plus important, Paul qui est sur un bateau, il doit aller à Rome. Vous savez qu'il a été prisonnier, et puis qu'il part avec d'autres prisonniers pour rendre compte de ses choix. Et là, il se passe des choses qui n'étaient pas prévues d'avance. Alors, acte 27, à partir du verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sous l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. » Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et aucun de vos cheveux ne se perdra. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Alors voilà l'histoire de ce voyage de Paul que vous connaissez. Hein. Alors vous savez qu'au départ, il partait de Crète et puis que le capitaine du bateau, qu'on peut comprendre d'ailleurs, Paul avait déconseillé de partir en disant qu'il y aurait du dommage et du danger. Il le savait. Le Seigneur l'avait averti. Mais le capitaine, on peut le comprendre. Il avait choisi plutôt d'écouter le pilote qui pensait que l'endroit où ils étaient n'était pas bon pour hiverner. Il fallait partir de l'autre côté et retourner sous l'autre versant de la Crète. Il avait écouté ses conseils. Puis ils sont partis. Hein, c'était croyant que les hommes, faisant confiance à leur dessein, que tout se passerait bien. Et en fait, il y avait un tout petit vent léger qui s'était produit. Mais après, ce vent s'est transformé en un vent impétueux, qui s'appelle le Raquilon, et c'était le désastre. Ça a été vraiment la tempête terrible, à tel point qu'on ne voyait plus la différence entre le jour et la nuit. Et que, à un point tel, qu'ils avaient même perdu tout espoir de se sauver. Probablement que Paul aussi. Et à ce moment-là, Paul qui était dans le bateau, il va rentrer en scène. Hein, jusqu'à maintenant, personne ne lui demandait son avis. C'était un prisonnier parmi d'autres. Et là, il va rentrer en scène. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter, ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. » Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Ah, c'est une parole, c'est celle-là qu'on va prendre pour nous aujourd'hui. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Est-ce que vous savez que pour le chrétien, il y a deux statuts ? Deux statuts, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Du Dieu à qui j'appartiens. On voyait tout à l'heure, notre sœur rappelait que le Saint-Esprit était envoyé, que le Seigneur partait. Il a même dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. C'était le contraire. Les disciples, qu'est-ce qu'ils voulaient? Que leur maître reste avec eux. On aurait fait la même chose qu'eux, non? C'était ça. Ils voulaient le garder jusqu'à tout le temps. Ne pas le perdre. Puis il leur dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Ils n'ont rien compris du tout. Heureusement que le Seigneur ne leur demandait pas de comprendre. Comme à nous, il ne nous demande pas de comprendre, il nous dit. Il demande autre chose. Mais il vous est avantageux que je m'en aille, parce que le Saint-Esprit va venir. Il faut que je sois mort et ressuscité pour qu'il vienne. Et non seulement il sera avec vous, mais il sera en vous. Et là, donc, on voit la première étape, un ange du Dieu à qui j'appartiens. Est-ce que vous avez la conviction dans vos cœurs, parce qu'on est en petit comité, on va en discuter ensemble, on va faire un petit échange, c'est la mode maintenant, vous savez, les réunions interactives, c'est très très bien, on va en profiter. Est-ce que vous avez dans votre cœur l'attestation, la conviction que vous appartenez à Dieu? Oui, il m'a fallu des années pour l'accepter, parce que, vous savez, plus on avance dans la vie avec Dieu, plus on se rend compte que Dieu est simple, et nous, compliqué. Dieu est toujours simple, mais il faut des années pour qu'on le comprenne, pour qu'on le réalise. Alors, est-ce que vous avez cette attestation que vous appartenez à Dieu? Oui. Très bien. Vous l'avez. Alors, quels en sont les fruits? Qu'est-ce qui vous fait dans votre vie que vous avez l'attestation que vous l'appartenez? Parce qu'on lui appartient, vous savez que ce n'est pas une déclaration académique, une déclaration administrative, il y a un papier, j'appartiens à Dieu, vous pouvez, c'est marqué sur un papier, vous pouvez lire. Hein, ça, sur un passeport, ça va. Nos amis iraniens, ils avaient un passeport, enfin, je pense, je ne suis même pas sûr. Mais, c'est... Qu'est-ce qui fait que vous avez cette certitude que vous appartenez à Dieu?
Il a donné son fils et moi j'ai accepté.
Et oui, ah ben ça, on peut le croire, quelqu'un peut écouter, vous le dites, hein, si vous le dites, je vous crois. Il y a un chanteur, je ne sais pas si vous connaissez, pour ceux qui ont un certain âge comme nous, est-ce que vous avez connu Gilbert Bécaud? Vous vous rappelez Gilbert Bécaud?
Oui.
Il a fait une chanson magnifique qui s'appelle Je t'appartiens. Vous la connaissez cette chanson?
Non.
Écoutez-la. Je t'appartiens. De tout mon être, tu es le seul maître, tu es le patron, je t'appartiens. C'est une chanson merveilleuse. Je ne sais pas s'il était croyant, hein, Gilbert Bécaud, mais en tout cas, dans cette chanson, il dit qu'il y a un créateur, et que ce créateur a tout droit sur lui, et puis, de tout mon être, tu es le seul maître, que je sois d'accord ou pas, de tout mon être, tu es le seul maître, et je t'appartiens. C'est une chanson magnifique, et qu'on ne peut pas chanter, qu'il ne pouvait pas chanter, si elle n'était pas vraie pour lui. Elle était vraie pour lui. Si vous trouvez l'occasion, maintenant avec Internet, on peut retrouver tous les chants, vous savez, on pourra peut-être écouter à midi. Et c'est une chanson merveilleuse, merveilleuse, et qui engage celui qui la chante, sinon il ne peut pas la chanter. Alors déjà, c'est une première étape, ça, parce que Gilbert Bécaud, il a reconnu qu'il avait un créateur. C'est ce que connaissent, vous savez, beaucoup de musulmans aussi, hein, les juifs aussi. Ils ont un créateur qui vénère, qui respecte. C'est un créateur. De tout mon être, tu es le seul maître, je t'appartiens. Mais ça, c'est pas suffisant pour nous, non? Alors, il y a une autre étape qui a été faite pour nous, pour ceux qui croyons. C'est quoi? On a non seulement un créateur, mais qu'est-ce qu'on a en plus? Ah, en plus d'un créateur, on a quoi? Sophie. En plus d'un créateur, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, vous dites que vous l'appartenez, ma foi, il y a peut-être des choses à ajuster encore, non? Vous avez qui en plus un créateur? Vous avez qui?
On a un sauveur en Jésus, déjà.
Ah oui, ça c'est le Seigneur. Mais dans le Créateur, qu'est-ce qu'on a en plus du Créateur?
Un Père.
Mais bien sûr, on a un Père. Un Papa. Vous savez qu'Abba, ça veut dire Papa, hein? On a un Père, vous vous rendez compte? Et on lui appartient. Et quand on lui appartient, quelles sont les conséquences? Dans nous, il y a des conséquences quand on lui appartient. Qu'est-ce qu'on peut énumérer comme... Parce que vous savez que quand on lui appartient, c'est qu'il s'est produit dans nos vies, ce qu'on appelle une nouvelle naissance. Non plus, ce n'est pas un geste académique, ça. Non? Non, pas du tout. C'est quoi? La nouvelle naissance, c'est l'irruption d'une autre vie en moi. Il sera en vous. On l'a dit tout à l'heure. Hein? S'il est en vous, ce Saint-Esprit, est-ce que c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour être une force d'appoint? Un moteur hybride? Vous savez, non, c'est la mode, les moteurs hybrides, entre l'électricité et puis l'essence. C'est un moteur hybride? Non? Donc nos vies peuvent être un moteur hybride, hein? Mais ce n'est pas son souhait. Pas du tout. Alors si on lui appartient, est-ce qu'il y a des conséquences si le Seigneur lui-même, puisqu'il a dit qu'on est scellé du Saint-Esprit dans Éphésiens 2, hein, vous êtes scellé du Saint-Esprit qui a été promis. Ce Saint-Esprit, c'est quoi? C'est une personne. C'est l'Esprit du Fils. Il est marqué dans Romains 8, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. C'est terrible comme parole. C'est une des paroles les plus terribles du Nouveau Testament. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Il est une créature de Dieu, comme disait Gilbert Bécaud, hein, mais il n'appartient pas à Christ. C'est le Père qui l'a donné. Vous vous rendez compte que ceux qui lui appartiennent, notre Père les a donnés à son Fils. Nous a donnés à son Fils. Vous avez cette attestation? Il y a des fruits. Quels sont les fruits du Saint-Esprit dans nos vies? Les fruits, c'est quoi? Il y en a un déjà qui est important, qui fait que vous êtes aujourd'hui. L'amour, oui. La patience. Mais il y a des conséquences, ça c'est des termes génériques qui sont vrais d'ailleurs, mais des conséquences pratiques. Et bien c'est que la parole que vous lisez aujourd'hui, avant, elle n'avait aucun sens. On l'oubliait et puis on disait maintenant on va passer à autre chose. Alors que maintenant la parole, si vous êtes né nouveau, la parole est devenue vivante. Est-ce qu'elle est vivante pour vous? Est-ce que vous la consultez régulièrement? Oui. Si on est né nouveau, on lui appartient, si on est né nouveau, on la consulte. Si on ne la consulte pas, est-ce qu'on est réellement né nouveau? C'est possible. Mais à ce moment-là, l'esprit est éteint. Ou bien on n'est peut-être pas né nouveau. Il n'y a pas de honte à ne pas être né nouveau. Il y a une honte à ne pas le reconnaître. Mais si on le reconnaît après, bien, écoute Seigneur, viens habiter en moi. Il vient par la foi, par la volonté de celui qui dit, viens Seigneur, viens vivre en moi. Et il le fait. Et à ce moment-là, les conséquences, elles sont là. La parole, elle devient vivante. Elle nous parle. Moi, elle m'a parlé ce matin. Vous lisez la bonne semence?
Oui.
Oui, vous l'avez lu aujourd'hui? Ah.
Ben, ça dépend, parce que des fois, on le lit avec un décalage d'un jour pour avoir le
J'ai lu celui d'hier et ça m'a vraiment parlé.
Très bien. Contre. Parfait. Mais celui d'aujourd'hui, peut-être qu'il est fait aussi pour aujourd'hui. Celui d'aujourd'hui.
Il y a le affiché.
Moi aussi, j'ai fait comme Christian. Moi aussi, j'ai lu ce matin. Je n'ai pas lu le verso. Mais j'ai lu le recto. Moi aussi. Qu'est-ce qui est marqué dans le recto?
J'ai lu le jour, le chiffre. Donc voilà.
Ah,
le
chiffre.
J'ai lu. Voilà. Bon. Le 6.
J'ai lu le recto verso du 6. Voilà.
Ah, du 6. Bon, alors le 7. Qu'est-ce que quelqu'un a lu le recto du 7? Pas maintenant, c'est interdit. Hein. Mais le recto.
J'ai fait n'importe
quoi. Ben le monde qui est venu, c'est 1 Jean 6. Le monde ne l'a pas reçu, mais ben, tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Ben, j'ai pris ça aussi comme une attestation de ce que le Seigneur voulait nous dire aujourd'hui, d'être enfant de Dieu. Et cet enfant de Dieu, ben, la parole devient vivante, c'est une nourriture, elle lui parle. Si elle ne nous parle pas, est-ce qu'elle pourra nous transformer? Il y a notre soeur qui disait qu'elle est là pour nous transformer. Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut faire ou ne plus faire? Il y a des conversations auxquelles on ne peut plus participer, non? Des mots qu'on ne peut plus dire, des pensées qu'on ne peut plus garder parce que elle nous juge, elle nous pèse. Soupçonner le mal. Non, ça ne vous arrive pas? Ça m'arrive, hein? Vous savez qu'entre chrétiens, c'est beaucoup plus important de confesser nos défaites que nos victoires. On pense toujours que l'autre est victorieux, puis nous on nage dans un abîme de boue de péché, que l'autre est dans une victoire permanente. Alors on est encore plus seul. Mais quand l'un de nous a le courage et l'honnêteté de dire qu'il a encore péché, d'avouer, bien on dit « Ah, il y en a au moins un qui est comme moi ». Non ? Parce que nos victoires ne nous appellent qu'une seule chose. C'est qu'on est les meilleurs. Mais ça, on le savait déjà. Non? C'est déjà qu'on est les meilleurs. Hein? Le voisin pense la même chose que nous. Mais confessez-nous. ça, on peut le dire aussi en toute simplicité. Seigneur, tu vois, ça fait du bien de dire, non seulement au Seigneur, mais à notre conjoint, à nos voisins, à nos amis. Ben, tu vois, j'ai encore eu aujourd'hui ces pensées-là. Il dit, ben, Seigneur, tu es comme moi. Mais le Seigneur, il nous connaît. Il veut que la vérité soit au fond du cœur. Donc, ces pensées qu'on a, on ne les garde pas. Parce qu'elles nous pèsent. Il y a des livres qu'on ne peut plus lire, des films qu'on ne peut plus voir, sans que ce soit un effort légaliste. Parce qu'il y a une voix en nous qui nous dit non, c'est pas pour toi. Non ? C'est ça qui est. Est-ce qu'on est réellement qu'on lui appartient ? Si on lui appartient, cette autre vie rend témoignage d'elle-même. On a l'ami chrétien qui vient voir de temps en temps qui nous dit qu'on le veuille ou non, quand le Saint-Esprit est là, il rend témoignage de lui. On le voit. Pas celui qui l'a, celui qui est à côté. Hein, celui qui l'a, il le voit, il rend témoignage de lui. Il y a un autre parfum qui est là. Autrement, le monde ne peut pas recevoir. On peut lui dire, je suis croyant, mais nos amis qui ne sont pas convertis pour nous dire, si tu veux, mais c'est heureusement que tu me le dis. Non ? Ce qu'on est, vous savez, parle tellement plus que ce qu'on dit. Et ça, on lui appartient. Quelle joie pour dire ça. Et au fur et à mesure de notre marche avec lui, de la lecture de sa parole, on va avoir encore cette attestation, on lui appartient, on est à lui. Donc il va garder tous nos jours. Il nous garde sous la route. Et puis surtout, surtout, il a ouvert le ciel pour nous. Il a ouvert. Maintenant, nous avons un Père. Vous savez que même dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas du Père, mais de l'Éternel, Yahvé. Mais c'est quelqu'un qui est lointain. C'est le sacrifice, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus qui vient vivre en nous, et c'est l'Esprit du Fils qui dit Père. L'Esprit du Fils, à travers nous, dit Père, nous, on dit Père. Il y a des choses, vous savez, qu'on ne peut dire qu'à Dieu seul. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous pouvez dire qu'à Dieu ? Peut-être même pas votre conjoint qui pourtant est proche de nous, ce qui ne veut pas dire qu'il est loin. S'il y a des choses que vous pouvez dire qu'à Dieu seul, ben c'est qu'il est en vous. On peut même avoir des scènes de ménage avec lui. Ce qui est embêtant, c'est que celui qui est en faute, c'est toujours le même. Mais on peut dire au Seigneur, pourquoi tu permets ça ? Pourquoi ? Il le refuse pas. Du moment qu'on rue dans les brancards et qu'on reste dans les brancards, il ne refuse pas qu'on ait ces contacts-là. C'est un contact filial. Écoute, Seigneur, tu ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Il dit, écoute, tu ne comprends pas, mais tu comprendras après. Vous voyez, c'est ça, lui appartenir. C'est avoir une vie de couple avec lui. Et des fruits qui sont là. Un parfum, une douceur qui fabrique, vous savez, la douceur, elle est marquée à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. La douceur est un fruit de l'esprit. On ne peut pas dire, je suis doux, c'est le voisin qui doit le dire. Si c'est nous qui nous écoutons. N'oubliez pas que je suis doux, si vous oubliez, je vous le rappellerai. Que ça puisse être resté ancré en vous. Non. Alors voilà. À qui j'appartiens. Et maintenant, il y a une autre étape dont parle Paul. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Donc, il est possible d'appartenir au Seigneur et de ne pas le servir, non ? Bien sûr. Bien sûr que c'est possible. Vous savez, il y a une parole qui est dite, qui est mal interprétée, qui, je crois, a été mal formulée aussi, qui dit « Nous sommes sauvés pour servir ». Vous connaissez cette formule ? Très connue, c'est celle de William Booth. Elle est catastrophique. Parce qu'elle dit quoi ? Qu'on est sauvé pour servir. Si on ne sert pas, on n'est pas sauvé. Ce qui n'est pas du tout biblique. Ce n'est pas dans la Bible, ça. On est sauvé parce qu'on est perdu, puis qu'on le reconnaît, puis qu'on a besoin d'être sauvé de qui ? Quelle est la personne dont nous devons être sauvés ?
Satan.
Une personne précise.
Nous-mêmes.
C'est tout. C'est ça, Christian, de nous. C'est la seule personne dont on a besoin d'être sauvé, non ? Le voisin, lui, c'est son problème.
Le vieil homme en nous.
Voilà, de nous, de cette vie naturelle qui est en nous. Et c'est là qu'intervient donc la deuxième étape dont parle Paul, et que je sers. Alors pour vous, servir Dieu, qu'est-ce que c'est ? Pour vous ?
Rendre témoignage de Dieu en
nous. Oui, servir Dieu, c'est... Mais c'est une chose très précise. Servir Dieu, c'est quoi ?
Accomplir ses volontés.
Le ?
Accomplir ses volontés.
Oui, Bien sûr, ça c'est. Mais il y a une chose précise qui nous dit. Eh bien, servir Dieu, c'est devenir quelqu'un dont Dieu pourra se servir.
Comme vous.
Eh oui, c'est pour ça que il veut nous transformer. Souvent, on a l'impression qu'il faut faire des choses pour Dieu. Hein, il y a des choses qu'on fait pour lui. Des tas de choses qu'il ne nous a pas demandé d'ailleurs. Et puis, dont il ne reste rien. Parce qu'on fait des choses pour le Seigneur. Ça n'intéresse pas du tout. Ça nous intéresse tout parce que ça nous donne l'occasion comme d'apporter quelque chose de nous. Puis on a, l'expérience nous montre qu'on désire souvent, pratiquement toujours, apporter quelque chose de nous. C'est un besoin du cœur naturel. Mais le Seigneur nous donne la réponse dans celui qui le sert. Dans Jean 12, le verset 26, on va le prendre. Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis sera mon serviteur. C'est pas compliqué, non? Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on suit le Seigneur, on va le servir. C'est pas vrai? On va le servir automatiquement. Il est impossible de suivre le Seigneur sans le servir. Impossible. Autrement, on ne le suit pas. Parce qu'il le dit lui-même. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et donc, c'est qu'on fait ce qu'il nous demande. On a un épisode qui va nous parler, parce que c'est un épisode qui concerne deux sœurs qui voulaient travailler pour le Seigneur, mais de manière un peu différente. Est-ce que vous savez qui sont ces sœurs? Vous savez qui c'est? C'est Marthe et Marie. Hein, on va voir. Une qui était la patronne, il semble bien. Marthe et Marie dans Luc 10. Marthe et Marie. On va montrer comment, la manière dont Dieu veut qu'on le serve. Hein? Marthe et Marie. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Pourtant, imaginez la scène. Marthe, qui devait être probablement l'aînée, elle reçoit le Seigneur Jésus, puis en même temps, elle reçoit tous les disciples qui venaient avec, parce qu'en général, ils se déplaçaient en groupe. Hein. Puis dans l'Antiquité, c'était comme ça. Donc elle reçoit les disciples et ceux qui l'accompagnaient, peut-être aussi d'autres sœurs, qui faisaient la logistique, l'intendance, comme on dit. Elle reçoit tout ce bon monde. Ça fait du travail quand même. Et puis sa sœur qui écoute, qui est assise et qui écoute. Bon, on peut comprendre Marthe, non? Les cuisinières parmi nous, non? Non? Elle faisait tout le travail, préparait le rôti, le four à micro-ondes, tout. Et puis l'autre, elle était... Bon, franchement, c'est quand même pas... C'est pas un exemple que donne Marie, hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Les deux sœurs ne recevaient pas la même personne. C'est clair, là? Marthe, qui est-ce qu'elle reçoit? Elle reçoit qui, Marthe, à votre avis? Mm-hmm. Comment? Mm-hmm. Marthe, je ne suis pas sûr. Marthe, elle reçoit un notable. Mm-hmm. Un conseiller municipal, un conseiller général, quelqu'un qui a du poids, un député peut-être. Mais elle reçoit un notable. Mais elle le dit d'ailleurs. C'est pas vu? Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Est-ce que c'est... C'est pas un peu osé, non? Elle réprimande. Elle le réprimande. Dis-lui de m'aider, non mais... Pour qui se prend? Franchement, non, c'est ça. Mais dis-lui donc de m'aider. Marie a fait un autre choix. Elle ne reçoit pas un notable. Qui est-ce qu'elle reçoit?
Christ.
Qui est-ce qu'elle reçoit?
Christ.
Un Seigneur. Un Seigneur. Alors, c'est pas la même chose. Les deux sœurs reçoivent deux personnes totalement différentes. Totalement. Avec un autre regard, une autre vision. Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Une seule chose dans nos vies. Depuis 2 ans, le Seigneur me le répète chaque jour. Dans nos vies, dans ma vie, une seule chose est nécessaire. Une seule. C'est quoi? Comme elle le dit, c'est le choix de Marie. Le Seigneur lui répondit, c'est pas le notable. Marthe, Marthe, tu il s'est pas vexé. Non, il la connaissait. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Il n'a fait aucune réflexion à Marie. J'ai entendu qu'il y a quelque temps un message qui disait qu'il fallait que Marthe devienne Marie, que Marie devienne Marthe. Mais il faut éviter de faire de nos pensées, la pensée de Dieu. À aucun moment, aucun passage, il n'est dit que Marie devienne une Marthe. Le Seigneur l'aurait dit. Il ne le dit pas. S'il dit qu'une seule chose est nécessaire, c'est qu'une seule chose est nécessaire. Vous savez que la foi, c'est croire ce que Dieu dit au mot. Quelqu'un qui vient vous voir, qui s'appelle Thierry Mandras, que vous connaissez, qui nous dit souvent, il a parfaitement raison, que la foi, c'est croire que ce que Dieu dit est plus important que ce que moi je pense. Surtout ce que je pense de la parole. Surtout. Et mettre en application à la lettre. On peut écrire des livres entiers de 300, 400 pages sur un seul verset pour le disséquer, l'expliquer, sans l'appliquer. Mais s'il indique qu'une seule chose est nécessaire, il n'y a pas besoin de disséquer, d'apprendre l'hébreu, le grec, le copte ou le syriaque, mais de le mettre en application. Une seule chose est nécessaire, et la seule, c'est quoi? C'est ce que Matthieu dit dans Matthieu 11, 28. On va le prendre. Une seule chose. Matthieu 11. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui vous fatiguez, d'autres traductions disent, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. La seule chose nécessaire, c'est celle-là. Il faut prendre à la lettre ce qui est marqué. Prenez mon joug. Ce n'est pas le Seigneur qui va nous l'imposer. Il ne va pas le mettre. Pour ceux qui ont connu il y a longtemps le travail avec le socle et la charrue, les bœufs avaient le joug sur leur cou que le paysan leur mettait. Le joug, c'est un carcan extrêmement rigide où les deux bœufs sont obligés de marcher à la même vitesse. S'il y en a un des deux qui ne marchait pas l'autre, l'autre il recevait un coup de bois dans son cou, il s'en rappelait. C'est extrêmement rigide le joug. C'est impossible au centimètre près de ne pas suivre l'autre. On doit le suivre. Prenez mon joug sur vous, le sien, et recevez des instructions. Alors nous, ce qu'on souhaite en général le plus souvent, Seigneur, donne-moi tes instructions et je prendrai le joug si affinité. Non ? Si on se met d'accord, sinon on se quittera bons amis. Ça ne marche jamais. Il a dit à Marc, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'a pas dit, Marthe, il n'a pas dit, montre-moi ta gloire, puis je croirai en toi. Elle serait encore en train d'attendre maintenant. Lazare serait toujours pas ressuscité. Toujours pas. Non, c'est toujours là, dans le tombeau. Il pourrait ressusciter 2000 ans après. Pour le Seigneur, ce ne serait pas un problème. Pour nous, oui, mais pas pour lui. Mais prenez mon joug sur vous, parce que si on ne prend pas son joug sur nous, on ne peut pas recevoir ces instructions. Elles sont une folie. Et puis il reste toujours, souvent, une folie. Mais il nous les donne. Prenez mon joug sur vous et recevez. Écoutez-moi. Et là commence le vrai service. Le vrai service, c'est partir avec lui. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Il lui a dit, quand Pierre lui demandait, mais que va-t-il arriver à Jean? Que t'importe? Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, c'était vraiment un cas extrême. Toi, suis-moi. Il avait un chemin pour Pierre, il a un chemin pour Jean, il a un chemin pour vous. Mais le servir, c'est le suivre. Ce n'est que ça. Alors souvent on dit, ah oui, on prend, si on laisse le Saint-Esprit régner sur nous, après on peut très bien, c'est un chemin de laisser aller le paresse, c'est impossible. Impossible. Si on le suit, c'est qu'on marche avec lui. Si on ne marche pas, c'est qu'on est resté assis. Ben, c'est qu'on ne le suit pas. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Ben non, c'est qu'on le suit dans ce que lui veut pour vous. Et ça amène quoi? Ça amène ce que le Seigneur voudrait. C'est le choix de la dépendance, voyez, qui est tellement en horreur à notre cœur naturel, au mien. Et vous savez qu'un des signes de la nouvelle naissance, c'est qu'en ayant reçu cette nouvelle vie, on devient capable de contempler l'ancienne, la nôtre. Ça, c'est un des signes. Dans la nouvelle naissance, on peut voir notre propre cœur, ce qu'il est. Ce qu'il est encore capable de faire, s'il a le droit de citer chez nous, s'il a le droit de vivre. Le Seigneur nous le montre. Puis on le voit, non? Ça, c'est un des signes de nouvelle naissance. Non pas contempler le cœur de l'autre, du voisin. On sait déjà qu'il est mauvais, hein, avant même d'être converti. Ça, on le sait, hein, non? Il a tous les défauts. Mais le mien. Il faut que ce soit cette nouvelle vie qui est en moi qui me le montre. Et qui fait que je l'accepte. Mais si je ne suis pas né de nouveau, c'est impossible de voir mon cœur. Il reste que le suicide ou bien le refermer le couvercle. Mais si cette autre vie, elle est là, elle dit, tu regardes, tu es comme ça. Laisse-moi. Moi, je vais te changer. Tu es impatient, hein? C'est un des signes. Bon, c'est un de mes problèmes. Non pas la patience, mais l'impatience. C'est un signe d'orgueil, ça. Mais on a tous nos spécialités. Le Seigneur nous les montre, et puis dans sa bonté, il remet ça sur le grill. Autant qu'il le faut, une fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois, il va traiter le problème que vous ne voudriez pas qu'il traite. C'est pas ça, non? C'est celui-là qui met devant nous. Et qui traite inlassablement jusqu'au moment où c'est fait. Et quand c'est fait, c'est bien. C'est lui qui nous transforme. Il ne nous demande pas de comprendre ce qu'il fait. Il n'a pas demandé aux disciples de comprendre. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, il leur dit, j'ai préparé le royaume de Dieu pour vous, parce que vous êtes ceux qui avez persévéré dans mes épreuves. C'est extraordinaire, il dit ça à des disciples qui vont l'abandonner, le renier, qui vont fuir comme des lapins. Il leur dit, vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est quand même étonnant, non? Il le dit, c'est marqué. Luc 22, vous pouvez le lire. Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves, parce que les disciples n'ont fait que la seule chose que lui leur demandait. C'était quoi? Quelle était la chose que le Seigneur leur demandait et qu'ils ont fait? Comment? C'est tout. Ils l'ont fait. Ils n'ont rien compris à son message. Hein, donc ça nous donne des excuses aussi. Ils n'ont vraiment rien compris à son message. Mais ils ne demandaient pas qu'ils comprennent son message. Ils ne demandaient pas. Il vaut mieux le suivre sans comprendre que tout comprendre puis rester assis. Non? Ils l'ont suivi. Et c'est un acte de foi extraordinaire qu'ils ont fait. Ils ont abandonné leur métier. Pierre était pêcheur. Il a laissé ses filets. Jean réparait les filets. Et ça montre déjà, par anticipation, ce que l'un et l'autre vont devenir. Pierre était un pêcheur d'hommes. Et Jean était déjà celui qui va réparer les filets, qui déjà, du temps de sa propre vie, de la vie des apôtres, allait déjà réfuter les hérésies. Il le montre dans son évangile, dans ses lettres. Il était déjà celui qui allait recorriger la trajectoire. Dieu l'avait prédestiné à ça. Il avait un ministère pour Jean, spécifique, comme il avait un ministère pour Pierre. Jean était souvent l'instrument de conversion, mais son message, son ministère principal était celui d'être déjà un restaurateur. Déjà du temps du premier siècle, vous vous rendez compte? Il réparait les filets, il a réparé après. Des cœurs et des doctrines qu'il a repoussées. Mais ils l'ont suivi. Ils ont fait la seule chose que Dieu voulait. Et après, quand on le suit, immanquablement, on va comprendre. Puisqu'on va être dans ses voies. Mais dans notre cœur naturel, on a des difficultés à ça. Et c'est ça la vie nouvelle. Je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens, peut-être 80%, qui sont réconciliés, qui appartiennent à Dieu et qui n'ont pas choisi cette dépendance. Mais ils passent à côté du vrai fruit. Ça peut être moi, c'est possible. Hein? Parce qu'une vie réussie, c'est une vie qui rencontre Dieu, c'est vrai. Mais une vie bénie, c'est une vie que Dieu conduit. Laissez-vous emmener là où il veut vous emmener. Choisissez, s'il le dit, une seule chose est nécessaire, une seule, c'est de prendre ce joug. Il dit maintenant, en marche. Laissez-moi, laissez-le vous emmener là où il veut vous emmener. Ce sera toujours le chemin le meilleur et le chemin qui sera complémentaire à celui de l'autre et puis qui fait qu'on marchera ensemble sans même l'avoir vu. Mais laissez-le faire, c'est la seule manière de le servir. Il n'y en a pas d'autre. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, qui ne nous a pas demandé, et puis qui sont après comme de la paille et du chaume, il ne reste rien. Rien. Même des choses qu'on fait pour lui, de tout notre cœur. Moi, je vois des chrétiens qui sont beaucoup plus consacrés que moi, qui font un tas de choses pour lui, mais sans le consulter. Ça fait plaisir au Seigneur, c'est bien. Ça ne lui fait pas plaisir, c'est bien aussi. Non, c'est pas ça. C'est des choses que lui, il le dit, que les choses a préparées d'avance. Ses œuvres préparées d'avance, c'est les siennes, c'est celle-là dans laquelle il veut nous emmener. C'est un chemin simple. Hein. Mais on est prêt à toutes les complications pour l'éviter. Parce qu'on ne veut pas cette dépendance. On a hérité de nos pères, cet esprit d'indépendance, c'est ça le péché. Le péché, c'est une vie indépendante de Dieu, qu'a choisi Adam et Ève, ils ont choisi une vie indépendante. Et maintenant, en venant habiter en nous, il nous dit maintenant, choisis-moi. La différence, c'est que ce joug, il est comment? Il est obligatoire ou facultatif? Il est comment ce joug? Comment il est? Non, c'est pas marqué.
C'est pas marqué qu'il est facultatif non plus.
Qu'est-ce qu'il dit? Prenez mon joug.
Prenez.
Prenez
mon joug. Ah oui, mais il ne peut pas le envoyer paître comme ça.
Ah bah ben si, on peut à tout moment refuser après. Ouais. On peut le refuser à tout moment. Ça nous arrive peut-être, hein, dit maintenant Seigneur. Et puis de prendre un chemin personnel dans lequel on s'humilie, on reconnaît l'autre. Ben, tu vois, je suis reparti de travers. J'ai quitté son joug. Non. Pourquoi? Parce que s'il nous imposait ce joug, il n'aurait aucune joie, aucun bonheur dans son cœur de père. Il ferait de nous des robots, des automates. Il ne ferait pas de nous des fils et des filles. Mais il veut être aimé. Comme il est. Et vous savez quelle est la seule raison que nous avons d'aimer Dieu? La seule. Quelle est la seule raison qu'on a aimé? Il y en a une. Pourquoi on aime
Dieu? Parce que lui,
mais bien sûr, c'est la seule. Il n'y en a pas d'autre. Toutes les autres, elles vont tomber comme de la poussière. Hein? Aimer Dieu pour ce qu'il est, parce qu'il est grand, parce qu'il est fort. Mais non. C'est comme si un enfant disait à son papa, oh, « Papa, je ne t'aime pas pour ce que tu me donnes, mais pour ce que tu es, pour ta gloire. » Je pense qu'il va lui donner une bonne petite fessée, il va lui dire, « Allez, maintenant, tu vas aller jouer dans la cour. Hein? » Non. Et quelle est la réponse de notre amour, de notre part à cet amour, la réponse? C'est quoi, la réponse? Oui? L'aimer dépendant. Alors, quel est ce mot qui résume ça? Et puis, que Dieu attend? Que notre Père attend? En réponse à cet amour, puisque dans toutes ces voies, ce sont des voies d'amour pour moi, même des voies que je ne comprends pas. Mais qui, à la fin, Dieu sera justifié par le fruit. Alors, tu vois, c'était ce qu'il y avait de meilleur pour toi.
C'est la confiance.
C'est la confiance, c'est exactement ça, Christian. Ce n'est que ça. Que ça. Aimer Dieu, c'est lui faire une totale confiance. Aimer Dieu, c'est lui faire une confiance totale que cet amour ne variera jamais. Que je le comprenne ou pas, c'est la confiance. C'est la seule manière de répondre à l'amour que Dieu nous donne. La seule. C'est la seule qu'il attend. Toutes les autres vont tomber par terre. Je lui fais une totale confiance et l'honore. Moi, je suis médecin, vous savez, quand il y avait des patients qui me disaient qu'ils aient confiance, j'étais complètement honoré, heureux. Pourtant, on vous assure que ce n'est pas toujours une confiance qui était bien placée. Pas forcément. Mais j'étais humilié de voir que des patients non-croyants, me disaient au bloc, par exemple, quand un patient allait dormir, je disais, vous n'avez pas trop peur? Il me dit, mais non, docteur, mais je vous fais totalement confiance. Comment je pourrais avoir peur? J'en étais transpercé. Des patients non-croyants. Et j'ai vu des chrétiens dans mon cabinet, d'autres médecins la même chose, qui laissaient Dieu en salle d'attente. Après, dans le groupe de consultation, si on avait enregistré comme le fait aujourd'hui Christian, on aurait eu des surprises. Ah, docteur, vous laissez ce médicament-là, mais est-ce que vous croyez que ça va me faire du bien? Ça m'étonnerait que je vous donne ça pour vous faire du mal. Ah, mais écoutez, docteur, écoutez ces médicaments-là, mais regardez toute la liste des effets secondaires qu'il y a là. Et si ça m'arrivait, j'ai écouté, c'est même pas la peine de prendre le médicament, ils sont déjà là. Mais c'est ça. Vous vous rendez compte? Eh bien, on peut être comme ça. Quand on est malade, quel est le premier médecin qu'il faut aller voir pour un chrétien? Le premier, qui c'est? Oui. C'est le Seigneur. Que Seigneur, j'ai mal à la tête, tu n'aurais peut-être pas t'occuper de moi, j'ai mal aux pieds, tu n'aurais pas. Et après, il va vous conduire. Mais le premier, c'est lui. Mais oui, parce que si on ne vit pas toutes choses avec lui, on ne les vivra pas. Si on ne vit pas les choses simples de notre vie avec lui, il est marqué dans Corinthiens que le Seigneur est pour le corps. Le corps pour le Seigneur est pour le corps. Donc, on peut lui dire au Seigneur. C'est ça, avoir une relation filiale avec lui. C'est le mettre au courant de tout ce qui nous arrive. Lui dire ça. Dire, je te fais confiance. C'est ça, tous les chrétiens, c'est la confiance. Et souvent, vous savez, j'ai été vraiment attristé de voir des chrétiens diplômés, patentés, des pasteurs, qui après me disaient, vous, c'est... Est-ce que ça me fait un bien, ça me fait du bien, Mais quand vous allez voir un médecin qui n'est pas chrétien, vous dites, Seigneur, maintenant j'ai rendez-vous aujourd'hui, et bien mets dans sa bouche, la réponse que toi tu as pour moi. C'est ça. Le Seigneur le fait. C'est ce qu'il faut faire. Que ce soit avec un médecin chrétien ou non chrétien, la même chose. Seigneur, donne-lui la réponse que toi tu as pour moi. Donne-lui. Voilà, puis il le fait. Parce que c'est un signe de confiance en lui. Cette confiance que rien ne peut remplacer et qui fait qu'après toutes les portes s'ouvrent. Quand on fait confiance, le cœur est au large. Et le Père est satisfait, c'est bien. Il nous bénit. Vous savez que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Bénit l'homme qui se confie en l'Éternel. Mais celui qui se confie dans son propre cœur est un insensé. Voilà. C'est un itinéraire avec lui, marche avec lui. Paul l'a fait, le résultat vous pourrez le lire après. Il est devenu le patron du bateau. Lui qui était un mort inconnu, un prisonnier, et après c'est lui qui est devenu, il a rendu grâce devant tous pour manger, ils ont tous mangé avec lui, et une autorité s'est établie qui ne venait pas de lui, mais de celui qui régnait en lui. Le pouvoir, les hommes le prennent. L'autorité, Dieu la donne, lui seul. Et quand il donne l'autorité à quelqu'un, je vous assure que rien ne peut s'y opposer. Rien. Et Paul avait cette autorité après, dans le bateau. Lui qui était inconnu est devenu le patron. Il les a tous rassurés, ils ont tous mangé, et ils sont tous arrivés ensemble. Il est même marqué le nombre des personnes sur le bateau, qui était combien? 276. Pourquoi c'est 276? Pourquoi le Seigneur le rapporte? Pourquoi? Parce qu'il dit à Paul, je t'ai donné tous ceux qui naviguent avec toi. Et qu'une seule, une seule personne a du prix pour Dieu. Une seule. Tous ceux qui naviguent avec toi. Ils ne sont peut-être pas tous convertis, mais ils ont vécu une expérience inoubliable pour eux, tous ceux. Et alors, le Seigneur, à travers vous, a aussi des personnes qu'il veut sauver, non? Dont il veut que vous puissiez vous occuper. Des personnes pour qui vous priez. C'est peut-être plus que 267, peut-être moins, peut-être juste ce nombre-là. Mais il a pour vous un cheptel, il a un troupeau pour vous, il a un cahier des charges, un sac à dos, pour chacun dans lequel il veut faire ses personnes, dans le chemin que lui choisira pour vous. Alors laissons-le conduire ce chemin, passer devant nous, et puis lui dire d'accord, puis prendre sa main, puis le laisser le conduire. On verra son dos, mais lui verra pour nous. Et puis un jour, on dira, c'est bien, tu m'as fait confiance. C'est bien. C'est la seule chose qu'il nous demande, puis qu'il honore toujours. Puis qu'il remplit le cœur de joie. Parce que vous savez qu'un des premiers fruits, de la vie nouvelle en nous, c'est la joie. On ne peut pas la fabriquer, cette joie. Elle est là, parce qu'on a trouvé celui qui nous donne ce vrai repos. Et puis qui peut entendre tout ce qu'on veut lui dire. Et qui répondra au moment opportun. On va prier ensemble.